Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Le pape François remettra à l'Église l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium ce dimanche à l'occasion de la messe conclusive de l'année de la foi. On fera le point dans un instant sur cette année écoulée avec Monseigneur Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Monseigneur Pietro Parolin a été applaudi. Ce lundi, c'était la première journée de travail du nouveau secrétaire d'État du Saint-Siège. Il a été absent malgré sa nomination pour raison de santé. Ce lundi, un motu proprio a été rendu public. Le Vatican en marche, bel et bien en marche, vers plus de transparence. Le pape François y approuve les nouveaux statuts de l'autorité d'information financière. François, on le sait, est très attentif aux migrants et le pape a reçu ce lundi le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Saint-Siège et OIT partagent beaucoup, c'est ce que nous expliquera le Britannique Guy Ryder. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Dimanche prochain, d'ici une semaine, le 24 novembre 2013, s'achèvera donc en la solennité du Christ-Roi l'année de la foi qui avait été lancée par le motu proprio Porta Fidei du pape émérite Benoît XVI. Cette année a débuté, on s'en souvient, le 11 octobre 2012 pour le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Ce fut une année riche en événements, en moments de communion, dans un but, témoigner de sa foi au monde. Les croyants ont eu l'occasion de réfléchir sur ce grand mystère par lequel l'homme s'en remet totalement à Dieu avec une confiance infinie. Olivier Tosserie.
Redonner le goût de la foi, c'était le but de cette année marquée par des événements spirituels et culturels, par des pèlerinages et des témoignages de parcours et de vie chrétienne. Plusieurs rendez-vous pour la conclure symboliseront cette rencontre entre le Christ et son Église. Les reliques de l'apôtre Pierre, tout d'abord, seront exposées pour la première fois au public après avoir été l'objet du pèlerinage de 8 millions de fidèles cette année. Des fidèles qui accueilleront de nouveaux frères et sœurs le 23 novembre avec la rencontre du pape et des catéchumènes. Des catéchumènes provenant du monde entier signent que les chrétiens demeurent invités chaque jour à répondre à l'appel du Christ, à être ses disciples et à annoncer l'Évangile au monde. Point d'orgue de cette clôture de l'année de la foi, la messe célébrée par le pape place Saint-Pierre le 24 novembre. Il présentera à cette occasion sa lettre apostolique Evangelii Gaudium, l'évangélisation et la joie, deux mots indissociables de la pastorale de François et deux injonctions pour tous les chrétiens. Témoigner de leur joie de croire, c'est ce que leur demande le pape, la joie de la rencontre avec le Christ qu'il est impératif d'annoncer, un enthousiasme qu'il convient de mettre au service des plus faibles, des plus pauvres, des plus isolés. C'est ce qui restera de cette année, l'unité de tous dans la foi en Jésus-Christ, espoir pour une nouvelle vie.
Olivier Tosserie, notre journaliste, était ce lundi matin en salle de presse du Saint-Siège où Monseigneur Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, a dressé un bilan de cette année de la foi. Je vous propose de l'écouter.
C'est un bilan très positif, surtout parce qu'on a fait l'expérience de la primauté de la grâce. On a beaucoup de médiations pour cela, on a organisé beaucoup des événements, mais à la fin, c'est toujours la grâce de Dieu qui convert le cœur. Et je dois dire que c'est l'expérience que nous avons faite. La rencontre avec le Saint-Père François, c'était un moyen très important pour montrer que des multitudes de personnes sont venues ici, sont des pèlerins, mais ils ont vécu aussi la foi dans les différents pays. Mais c'est un moment où la foi a été vraiment montrée comme un choix de vie et comme un style de vie qui doit être vécu.
L'année de la foi a été lancée par Benoît XVI, un pape théologien. Elle s'achève avec le pape François, un pape pasteur. Qu'est-ce qui fait l'unité entre ces deux papes et qu'est-ce qui fait l'unité de cette année de la foi?
L'unité est donnée par la continuité. Quand il y a une possibilité de vivre la foi, cela vient bien sûr de l'enseignement du Saint-Père. Mais le pape Benoît qui a commencé, qui a voulu cette année, et le pape François qui l'a vécu et a donné aussi son enseignement pour tous les événements que nous avons vécus, ils l'ont donné la vision de la foi à partir de la parole de Dieu. à partir de la vie de l'Église, à partir d'une situation aussi de crise qu'on est en train de vivre, mais qui a même des façons et des perspectives qui sont très positives. Alors je dirais qu'il y a une continuité entre les deux qui est donnée à vivre la foi dans une situation sans doute de crise, mais aussi des espérances très profondes.
Monseigneur Fisichella. Et d'ici dimanche, la semaine sera chargée pour le pape François. Il y aura des rendez-vous habituels comme l'audience générale de mercredi, mais aussi d'autres événements importants. Jeudi, François écoutera ainsi les patriarches et archevêques majeurs des églises orientales, de Syrie, d'Irak, du Moyen-Orient. Ils interviendront sur la situation des chrétiens d'Orient avant que le pape lui-même s'adresse à eux dans un discours qui promet d'être fort. Les patriarches chaldéens, melkites ou syro-catholiques sont à Rome pour la plénière de la Congrégation pour les églises orientales. Elle s'ouvrira ce mardi sur le thème des églises orientales catholiques à 50 ans du Concile œcuménique Vatican II. Jeudi, une journée importante puisque le pape se rendra à l'occasion de la journée des religieuses cloîtrées au monastère de Saint-Antoine Abbé sur l'Aventin à Rome, à la rencontre des bénédictines Calmadoli, une communauté de sœurs fondée au XVIIIe siècle. Mais avant ces événements importants à venir et que nous traiterons, bien sûr, revenons sur les audiences de ce lundi. Le pape a reçu le Premier ministre des Bahamas. Ensemble, ils ont parlé d'émigration, de la contribution qu'offre l'Église catholique dans les secteurs de l'assistance ou de l'éducation. Ils ont espéré renforcer leur collaboration dans ces domaines. Et puis cette audience de lundi matin au Vatican marquait également la prise de fonction du nouveau secrétaire d'État. Monseigneur Pietro Parolin, souriant et croix métallique autour du cou, a été chaleureusement applaudi à son apparition dans la salle des traités. Dans un tweet, la secrétaire d'État lui a souhaité la bienvenue. Autre rencontre ce lundi matin au Vatican, le pape François a reçu le directeur général de l'Organisation internationale du travail, le britannique Guy Ryder. Ce dernier a souligné les points de convergence existants entre le Saint-Siège et son organisation dans les domaines du travail et du social. Guy Ryder a été tout particulièrement touché par les propos que le pape avait tenus début juillet sur l'île italienne de Lampedusa quand il avait parlé de mondialisation de l'indifférence. Il a salué également l'apport de l'Église, au travers notamment de sa doctrine sociale, à la réflexion et à l'action de l'OIT. Guy Ryder revient tout d'abord sur sa rencontre avec le pape François avant d'aborder les grands dossiers dans lesquels l'OIT et l'Église coopèrent.
Il y avait une question que j'ai vue très clairement que le pape était très intéressé, et c'est la question du trafficking, la traite des êtres humains. Il m'a parlé de sa préoccupation profonde pour cette exploitation aiguë des travailleurs, des êtres humains dans le monde. C'est une esclavitude moderne, c'est vrai. Et j'ai expliqué au pape François que notre conférence de l'OIT l'année... Nous avons une conférence annuelle à Genève. Il sera question à cette conférence de cette question du travail forcé moderne. Je pense que c'est une question sur laquelle, encore une fois, l'Église et notre organisation, nous pouvons collaborer ensemble. J'ai vu très clairement que c'était un sujet de forte préoccupation pour sa santé.
L'OIT a publié il y a quelques années maintenant un livret sur les apports des religions en matière de travail décent et de protection sociale. En quoi, selon vous, les religions, et plus particulièrement évidemment la religion catholique, peuvent contribuer à valoriser ce travail décent que vous, en tant que OIT, vous promouvez?
Oui, je pense que notre agenda du travail décent correspond très bien avec les traditions religieuses qu'on trouve un peu partout dans le monde. Je pense que l'idée de dignité du travail est omniprésente. Je sais très bien que c'est très présent dans la doctrine sociale de l'Église catholique, et ça depuis plus d'un siècle. Tous les textes démontrent que cette idée de la dignité du travail comme réalisation du valeur humain, ce sont des valeurs que nous partageons. La question aujourd'hui est, dans des conditions de crise dans le monde du travail, est de savoir comment on peut traduire ces valeurs qui sont profondes, qui sont très présents dans les différentes traditions religieuses, comment les traduire dans des politiques, dans des actions qui peuvent effectivement améliorer des situations qui sont parfois dramatiques et des situations qui ne correspondent absolument pas à cette valeur du travail décent.
Est-ce que vous pensez que les églises, que les différentes religions doivent s'impliquer dans la promotion du travail décent à l'échelle des différents États?
Je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup. Et je peux même vous dire que certaines déclarations du pape Francis ont montré un petit peu la voie. J'étais très 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 touché par les déclarations que le pape a fait de Lampedusa. Face au drame de Lampedusa, une phrase magnifique, il a parlé de la globalisation de l'indifférence. Ça dit beaucoup, c'est-à-dire que face à des situations parfois dramatiques, on ne peut pas se permettre l'indifférence. Donc il faut s'impliquer. Je peux dire les mêmes pour les déclarations faites par le pape suite à la tragédie à Rana Plaza, Bangladesh, l'effondrement d'une fabrique qui a coûté la vie de plus de 1100 travailleurs. Il a parlé de l'inacceptabilité de cette situation. Et je peux continuer. Le travail des enfants, il a parlé sur le drame du chômage des jeunes qui a des niveaux absolument catastrophiques. De cette manière-là, je pense que oui, l'Église est impliquée dans les grands défis du monde du travail actuel.
Le Saint-Siège coopère avec l'OIT, et ce depuis de nombreuses années. Dans quel secteur ce partenariat a-t-il donné le plus de fruits?
Je veux insister sur l'importance de notre coopération dans le domaine des travailleurs migrants, ce qui est très important. Avec plus de 230 millions de travailleurs migrants dans le monde, ce sont des travailleurs qui sont très vulnérables, qui sont en danger d'être exploités. L'Église catholique était très présente dans la défense des travailleurs migrants, et nous aussi. Mais je vois un autre chantier où on peut collaborer bien ensemble dans l'avenir. C'est le domaine de l'agenda pour le développement post-2015. Nous savons que les Nations Unies est en train de déterminer son agenda pour le développement dans le monde post-2015. L'OIT défend l'idée de mettre au centre de cet agenda un objectif spécifique sur le travail décent et la protection sociale. Nous croyons que dans la crise du travail actuel, il est absolument nécessaire de mettre le travail décent au centre de cet agenda des Nations Unies. Nous avons travaillé avec des ONG, des organisations catholiques dans ce bout, et je dois dire qu'ensemble, j'ai l'impression que nous commençons à gagner du terrain. Mais c'est un long chemin, il faut continuer.
C'était le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder, des propos recueillis par Xavier Sartre. Au Vatican, journée décidément chargée publication ce lundi d'un motu proprio sur l'AIF. Dans cette lettre apostolique, le pape approuve les nouveaux statuts de l'autorité d'information financière après un changement de compétences au sein de cette institution dans le but d'une plus grande transparence. Les nouveaux statuts dans ce décret daté du 15 novembre instituent un bureau spécial pour le contrôle dit prudentiel et le dote des ressources professionnelles nécessaires. Et toujours ce lundi, le gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican a annoncé le lancement en son sein d'un audit sur ses activités économiques et ses processus de gestion. La démarche a été confiée à une équipe internationale du cabinet Ernst & Young. Plus de détails, plus d'informations sur notre site internet www.radiovaticana.va. À Vienne, dans la capitale autrichienne, une série de tables rondes et de débats au CACID, le Centre international pour le dialogue interreligieux et culturel, Roi Abdallah Ben Abdelaziz, un centre fondé par l'Arabie Saoudite, l'Espagne, l'Autriche, avec le Saint-Siège en tant qu'organisme observateur et fondateur. La conférence qui s'est ouverte ce lundi est destinée à sensibiliser les jeunes générations à avoir une image objective, honnête et correcte de l'autre. Et pour ce faire, trois thèmes seront développés sur 3 ans. Cette année, l'accent est mis sur l'éducation, avant de parler l'an prochain du contexte des mass médias et en 2015 du rôle d'Internet. Parmi les 450 participants, le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il revient au micro de Chris Altieri sur ses premières impressions.
Nous avons entendu des interventions de grande qualité. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que la nécessité que la jeune génération puisse profiter de tout ce que nous avons élaboré dans le CACIC et surtout que nous ayons à cœur d'utiliser les moyens de communication sociale moderne, Internet et tout ce genre d'instruments pour que le monde soit plus humain.
Et dans son intervention, le cardinal Torrent a rappelé que nous vivons dans un monde de plus en plus provisoire, mais que certains s'en rendent compte. On ne peut pas vivre sans référence au passé, sans relation avec nos contemporains. Nous appartenons, dit-il, tous à la même famille humaine. Hélas, regrette-t-il, nous jugeons trop souvent les personnes sur les apparences ou sur ce qu'ils produisent, réduisant l'homme à un objet. Or, les religions proposent, sans imposer, bien sûr, des raisons de vivre. Et le dialogue interreligieux s'est s'évertué à ne pas présenter les autres religions sous un mauvais jour à l'école, à l'université, etc. C'est écouter et mieux comprendre l'autre, donner à Dieu la place qu'il mérite. Regarder l'autre, c'est enfin accepter d'être questionné par lui sur sa foi et de travailler avec tous pour le bien commun. Les acteurs religieux engagés pour la justice climatique à Varsovie en marge de la 19e conférence internationale sur le climat de l'ONU, l'Église s'est elle aussi mobilisée. L'Alliance internationale d'agences de développement catholique, la Caritas Pologne ainsi que l'Université Wyszynski tiennent jusqu'à ce mardi une conférence sur les changements climatiques. À la tribune, l'ancien observateur permanent du Saint-Siège auprès des organisations des Nations Unies, actuel nonce apostolique en Pologne, Monseigneur Celestino Migliore se désole qu'après 19 sommets déjà, la route vers un accord concret, un traité mondial, semble encore longue. Pour contenir le réchauffement de la planète qui pourrait frôler les 5 degrés si le monde ne prend pas de mesures sérieuses, plus de 190 pays sont rassemblés à Varsovie. Ils doivent poser les bases de l'accord global attendu en 2015 à Paris, un texte qui prendra le relais du protocole de Kyoto et qui doit embarquer les États-Unis, les grands pays émergents, pour qu'ils limitent aussi leurs gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le débat semble plus serein et positif, affirme Monseigneur Migliore, qui revient dans son intervention sur la question clé de Varsovie, celle de l'équité entre les pays en voie de développement et les pays industrialisés. Jean-Baptiste Cocagne.
Le Vatican est le plus petit État au monde, mais ça ne l'empêche pas d'être fortement impliqué dans le débat en cours. Un traité sur le climat est d'ailleurs en cours de rédaction et l'Église n'attendra pas sa publication pour apporter sa pierre à la réflexion en cours sur le concept d'équité et de responsabilité commune mais différenciée. L'idée que les pays en développement ne seraient pas soumis aux mêmes obligations environnementales que les pays développés. Pour Mgr Migliore, chaque individu, chaque communauté régionale ou nationale a le même droit à utiliser les ressources atmosphériques et le même devoir de les protéger. Mais il faudrait prendre en compte les proportions de gaz émis par habitant, les émissions émises par le passé ou encore le PIB des pays. Pour le nonce, le principe du pollueur-payeur semble valide, ainsi personne n'est pénalisé. Mais il invite à la solidarité et à la sobriété. L'Église formera de son mieux les consciences pour protéger ce don de Dieu qu'est la création, dit-il. Ce qui compte, selon le prélat, c'est de prendre soin et de promouvoir. Et Mgr Migliore le répète, il y a urgence à agir.
Au Cameroun, l'enlèvement du prêtre français Georges Vanderbeuch le 13 novembre dernier était peut-être un acte de banditisme qui a mal tourné. Selon le ministre camerounais des communications, cité par l'agence Fides, n'ayant pas trouvé d'argent, les malfaiteurs auraient enlevé le prêtre dans l'espoir d'une rançon. Le rapt a été revendiqué le 15 novembre dernier par la secte islamiste nigériane Boko Haram, en coordination avec le groupe djihadiste d'Ansarou. Le rapprochement des deux groupes est considéré comme possible par les experts, informe Fides. Boko Haram et Ansarou auraient pu décider d'unir leurs forces contre les assauts que subissent les deux groupes au Nigeria et au Mali. Au Sud-Soudan, une bonne nouvelle. La première pierre de l'université catholique du pays a été posée à Djouba, la capitale. Lors de la cérémonie, Mgr Koussala, le président de la commission éducation de la conférence épiscopale soudanaise, a parlé d'un signe d'espoir pour l'avenir. Pour l'Église catholique, l'éducation est une composante de sa vocation à l'évangélisation et à la promotion humaine, a expliqué lui l'archevêque de Djouba. Quant aux autorités civiles, le vice-ministre de l'Éducation a remercié l'Église pour avoir ouvert les premières écoles au Soudan du Sud, un pays tout jeune puisqu'il est né en 2011. Il a rappelé d'ailleurs que ces institutions ont constitué le fondement de la libération du pays. Il a promis que le gouvernement aiderait l'université. Voilà, c'est sur cette nouvelle joyeuse que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie, merci de votre écoute attentive. N'hésitez pas, avant notre prochain rendez-vous demain, même lieu, même heure, à aller sur notre site internet www.radiovaticana.va.